Quotidien avec Hélène Denis.
Mai, 15 mai 2023, lendemain de la fête des mères. J'étais ravie de ce beau temps pour célébrer nos mères, celles qui nous ont mises au monde hier, dimanche. Bien, elles nous ont pas tous et toutes mises au monde hier, mais la fête des mères, c'était bel et bien le 14 mai. Et ce matin, bien, la vie aussi était dans les lilas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Mathieu.
Oh, que oui!
C'est beau, hein?
Ouais,
ça sent pas encore.
Non, c'est effectivement, ils ne sont pas mûrs encore.
Non, ils ne sont pas ouverts totalement.
Mais, oui, non, ça commence.
Mais ils sont en train de fleurir. Mm-hmm. Vive le printemps!
Vive les lilas!
Oui, ça a bien été la fin de semaine pour
oui,
vous?
Oui, très bien.
Il faisait
tellement beau que...
C'est vrai, hein?
Ça, je pourrais prendre cette température-là à l'année longue.
Moi aussi. J'adore ce genre de météo. Oui.
Magnifique.
Pas écrasant.
Non.
Ouais. Louis, est-ce que vous êtes d'accord avec nous?
Ah oui, bien profiter, passer l'essentiel du week-end dehors, profiter du soleil.
Oui, il faut en profiter pendant que ça passe et on a le goût de bouger hein, dans des températures justement où on n'est pas complètement assommé. Alors, ça viendra, j'imagine, parce que de plus en plus, les grandes chaleurs arrivent tôt et ne partent plus. Mais en tout cas, en attendant, on profite de ce beau temps avec cette température très agréable. Louis, vos sujets d'aujourd'hui, ben vous allez parler du très chaud au très froid ou du très froid au très chaud?
C'est ça, on va parler de température et d'une expérience qui est en cours avec des humains soumis à du très froid, du très chaud, effectivement. Des aventuriers qui affrontent des climats extrêmes pour la science. Ils sont suivis par des scientifiques. Mais ils sont en Laponie, en Amazonie. Je vais vous raconter un peu cette expérience.
Dans les extrêmes.
Exactement. Et un autre extrême, une curiosité de l'histoire. Le trou le plus profond au monde, eh bien, je vais vous raconter où est-ce qu'il est et comment est-ce qu'il a été creusé.
Est-ce que vous allez nous parler d'Alice au Pays des Merveilles?
Eh bien, peut-être que non. C'est plus scientifique que ça, mais...
D'accord. Alors, mais c'est merveilleux aussi, j'imagine.
Oui.
Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a au menu de ce lundi 15 mai? L'Orchestre classique de Montréal accueille son nouveau chef. Il s'agit de Jacques Lacombe, très talentueux Jacques Lacombe, qui sera le nouveau directeur artistique et chef principal qui prend la relève de Boris Brott, qui nous a coûté de façon abrupte, qui est mort lors d'un accident de voiture. Il a été frappé et ça a été vraiment tragique et... On est encore en peine, mais Jacques Lacombe, je pense qu'il prend, il a été bien choisi et il va nous parler justement de cette succession. Qu'est-ce que Boris Brott lui a apporté et qu'est-ce que lui va apporter à cet orchestre classique de Montréal qu'on appelle aussi l'OCM. Mathéo est un auteur-compositeur-interprète-guitariste. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Il sera en studio, il va nous faire une performance, il va chanter, jouer de la guitare. Il a été nommé Révélation à Radio-Canada. Je pense que c'était musique du monde comme catégorie, parce qu'il y a différentes catégories. Il va nous en parler aussi de cette expérience. Qu'est-ce que ça a eu un impact sur sa carrière? On saura tout avec Mathéo, donc, dans la dernière demi-heure de cette émission. Pour tout de suite, je sais pas si vous avez regardé la nouvelle émission animée par Marc Labrèche, « Je viens vers toi ». Eh bien, dans cette émission, il y a eu une apparition d'Ariane Moffatt qui a chanté « Nuit magique », ce grand succès de Catherine Lara, écrit par Luc Plamondon. Et ça devait être qu'une soirée magique. Et finalement, je pense que la réaction était très, très belle. Et Ariane Moffatt a décidé de l'enregistrer. Et je pense que ça va être un bon succès. En tout cas, déjà pour le printemps et l'été, ça se prend extrêmement bien. La voici.
Ville étrangère, ok, tu
Dans la catégorie des chansons qui rentrent dans la tête et qui n'en ressortent jamais, c'était Nuit magique d'Ariane Moffatt.
Oui, chanson velcro, verre d'oreille, etc. C'est vrai que ça reste dans la tête. Alors, à la une du Journal de Montréal, victime d'un violent face-à-face, la SAC lui fait vivre l'enfer. Et c'est un texte qu'on peut lire en page 4 et en page 5 aussi. On parle de la SAAC qui est toujours là pour me faire des gens bêtes. Au lieu de m'avoir accompagnée, on dirait que la SAAC est toujours là pour me faire des gens bêtes, s'insurge Marie-Noëlle Leblond, la femme de 40 ans qui a été victime d'un face-à-face d'une violence inouïe à Mirabel le 9 avril 2022 avec un homme qui a dévié de sa voie parce qu'il s'était endormi au volant. Traumatisme crânien léger, 6 côtes fracturées, déchirement de l'aorte, perforation de l'intestin et multiples lacérations au foie et au diaphragme. Ces blessures l'ont laissé 4 jours dans le coma. On m'a dit que j'avais été très chanceuse d'avoir survécu, souffle la conseillère d'orientation au centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Rencontrée chez elle à Saint-Colomban, dans les Laurentides, elle nous accueille un an plus tard en marchant avec sa canne, qui a remplacé au fil des mois ses béquilles, sa marchette et son fauteuil roulant. Chez elle, où elle est retournée vivre depuis septembre 2022 après des mois à l'hôpital et au centre de réadaptation, un lit électrique dans lequel elle doit dormir pour limiter ses douleurs est installé dans son salon. « Je ne veux pas faire pitié, mais je veux envoyer le message qu'il faut que ça change à la SAAC », soutient-elle. Le cauchemar bureaucratique de Mme Leblond a commencé dès le lit de l'hôpital, alors qu'elle a peine à comprendre ce qui lui arrive pendant ses semaines de délirium aux soins intensifs. Sa mère prend contact avec la SAAC qui est la Société de l'assurance automobile du Québec. Elle apprend que sa fille n'a pas droit à l'indemnité qui couvre 90 % du salaire puisqu'elle était en arrêt de travail à jour, le jour de l'accident. Marie-Noëlle Leblond, qui peine à organiser ses pensées, est alors forcée d'intervenir et de prendre le téléphone pour aider sa mère paniquée. On a dit à mes parents, donc la SAAC a dit à ses parents, qu'ils n'étaient pas là pour avoir de l'empathie et qu'ils étaient une compagnie d'assurance. Ça ne faisait pas longtemps que ma mère avait failli perdre sa fille, se désole Mme Leblond. À ce jour, la victime reçoit seulement 66 % de son salaire, soit ce qu'elle recevait au moment de l'accident, puisqu'elle était en arrêt de travail. Or, elle conteste cette décision, puisqu'elle affirme qu'elle était sur le point de recevoir son feu vert du médecin pour retourner au travail au moment du drame. Au Québec, tous les citoyens sont assurés avec la SAAC qui prétend couvrir de nombreuses dépenses que doivent faire les accidentés, comme des traitements de physiothérapie, des prothèses, de l'aide à domicile ou toute autre dépense liée aux séquelles de l'accident. En réalité, les accidentés doivent assumer une partie importante des frais et essuyer des refus de remboursement de la SAAC, même s'ils croient y avoir droit. Et c'est ce qu'a rapidement constaté Marie-Noëlle Leblond en voulant faire rembourser le traitement de l'orthodontie de 8 400 $ qu'elle a dû subir après son accident. La chirurgienne maxillofaciale m'a dit que mon occlusion avait été affectée. Je ne pouvais plus croquer dans des pâtes alimentaires. Il n'y avait plus de contact qui se faisait entre mes dents. Je ne pouvais pas rester comme ça. C'était inconcevable. La SAAC a refusé de rembourser un seul dollar du traitement en prétextant que l'accident n'avait pas de lien avec l'état de sa dentition. Mme Leblond a fourni des photos d'elle avant l'accident, notamment de l'époque où elle avait subi un premier traitement d'orthodontie à 16 ans. Elle a également recueilli plus de 200 signatures dans une pétition adressée à la SAAC, attestant que sa dentition était normale avant l'accident, en vain. Marie-Noëlle Leblond, qui vit seule avec 66 % de son salaire, doit compter sur l'aide financière de ses parents qui ont payé son traitement d'orthodontie. Mais son combat avec la SAAC est loin de s'arrêter là, puisque d'autres demandes de dépenses qu'elle a dû faire en lien avec sa réadaptation lui sont refusées. Alors, c'est à lire toute cette histoire dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Une autre histoire qui donne froid dans le dos, cette fois-ci, ça concerne l'environnement. Actualité, Canet s'attaquait des eaux toxiques dans une zone de non-droit, les flots contaminés d'un centre de recyclage administré par deux hommes au passé criminel s'écoulent vers le lac des Deux-Montagnes. sans que personne n'ose intervenir. Un dossier devenu le symbole des maux qui affligent une communauté autochtone où règne un climat de peur et d'intimidation. J'y reviendrai en deuxième demi-heure de cette heure. Congrès de la CAQ, oui chef, François Legault reçoit un appui massif, mais son ministre de la Justice doit encore défendre le processus de nomination des juges. Le premier ministre a obtenu dimanche l'appui de 98,61% des militants du parti. La loyauté des militants caquistes envers leur chef atteint un sommet inégalé malgré l'abandon récent de la promesse électorale du troisième lien autoroutier. Le premier ministre François Legault a obtenu l'appui de 98,61% des membres de son parti réunis en congrès à Sherbrooke dimanche, un résultat supérieur à celui qu'il avait obtenu il y a près de 10 ans. Et même s'il s'agit d'une mesure d'exception, Simon Jolet-Barrette a admis dimanche soir avoir annulé dans l'intérêt de la justice 5 appels de candidature au poste de juge depuis 2020. Et désormais, le ministre de la Justice avisera le Conseil des ministres lorsqu'il procédera à la nomination d'une connaissance. La controverse autour de la nomination de 2 juges de la Cour du Québec a porté ombrage au gouvernement Legault pour la 2e journée consécutive, alors que les militants de la Coalition Avenir Québec étaient réunis en congrès à Sherbrooke. Dimanche, le ministre Simon Jolin-Barrette a eu à défendre cette fois son choix d'annuler un appel de candidature au poste de juge à Val-d'Or, comme l'a rapporté la presse. Et la une du Devoir d'aujourd'hui, le Devoir enquête des pharmaciens québécois condamnés par leur ordre en moins de 3 ans. 8 pharmaciens ont été condamnés pour avoir obtenu des clients au moyen de programmes financés par des compagnies pharmaceutiques. Et une photo, on s'en va en Turquie où il y a des élections. Erdogan en tête en Turquie, direction 2e tour. Les partisans du président Recep Tayyip Erdogan, s'étaient rassemblés devant le quartier général de son parti dimanche soir. Démarrant la soirée électorale avec une avance confortable, ils ont vu le pourcentage des voix accordées au président turc fondre comme neige au soleil. Au moment où ces lignes étaient écrites, la présidentielle se dirigeait vers un second tour face à l'opposant Kemal Kılıçdaroğlu. Alors, comme dirait l'autre, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Et sécurité routière, le paradis des chauffards. Les punitions pour les graves infractions de la route sont-elles trop légères au Québec? C'est un texte de Stéphane Bayarchon.
Le problème, c'est pas que je le pensais pas, c'est que je le pensais. Le problème, c'est pas ce que je disais pas, c'est ce que je te disais. On se détruira pour sauver l'image de l'autre qu'on aimait. Plus qu'une voiture, plus qu'une maison, plus qu'une histoire de clé. Tu sais qu'on s'aimera toute la vie, même si c'est plus venteur. Qu'on a les fils qui se touchent et déboire nos compteurs. Pour te maquiller, tu laisses sécher tes pleurs. Pour faire des bouquets, des fleurs. Comme si on n'était pas fait pour naître. Qu'on n'était pas fait pour rester. Mes valises sous les yeux, elles sont prêtes. Comme si c'était déjà l'été. Je sais que tu voudrais voir la meilleure version de moi-même. Et quand j'essaye de changer, rien n'est plus pareil. Comme si on n'était pas fait pour naître. Qu'on n'était pas fait pour rester. Le problème c'est que je m'abandonne avant d'être abandonné. Le problème c'est que c'est pas ton rôle de venir me sauver. Quand je suis né, papa n'était pas là, j'emporte les séquelles. Plus qu'une victoire que cette chanson, plus qu'une histoire de blé. Tu sais qu'on s'aimera pas toute la vie, enfin quelques heures. Je connaîtrai ton avis, tes refrains par cœur. Pour faire un bouquet, tu laisses sécher les fleurs. Pour maquiller tes peurs. Comme si on n'était pas fait pour naître. Qu'on n'était pas fait pour rester. Mes valises sous les yeux, elles sont prêtes. Comme c'était déjà l'été. Je sais que tu voudrais voir la meilleure version de moi-même. Et quand j'essaye de changer, rien n'est plus pareil. Hey, hey. Comme si on n'était pas fait pour naître. Qu'on n'était pas fait pour rester. Pas fait pour naître, qu'on n'était pas fait pour rester.
yeux, elles sont prêtes, comme c'était déjà l'été. Je sais, tu voudrais voir la meilleure version de moi-même, et quand j'essaye de changer, rien n'est plus pareil. Hey, hey. Comme si on n'était pas fait pour naître, qu'on n'était pas fait pour rester.
La chanson « Restée » du chanteur Hervé.
Merci beaucoup. Et Louis me disait que Hervé a été révélation masculine aux Victoires de la musique il y a 2 ans, donc en 2021. Louis de Bernice, chronique insolite avec vous. Vous nous parlez de 20 aventuriers qui n'ont vraiment pas froid aux yeux. En tout cas, moi, je les trouve extrêmement courageux.
Oui, ils ont eu chaud, très, très froid. C'est une histoire de température, ça c'est certain. Ils ont eu donc très chaud, très froid et ils continuent. 10 femmes et 10 hommes de la mission Deep Climate ont parcouru, dans un premier temps, l'Amazonie fin 2022. Ils ont plus récemment affronté le froid en Laponie en mars 2023. Et bien aujourd'hui, ils repassent dans le chaud, ils arrivent en Arabie Saoudite où ils marcheront en autonomie durant 40 jours en tirant chacun un chariot en plus.
Ça veut dire quoi, marcher en autonomie?
C'est-à-dire couper du monde extérieur et en devant se débrouiller eux-mêmes.
Ils ont
des ressources dans les chariots, ils ont du matériel, ouais. De la nourriture, mais voilà.
Des vrais aventuriers.
Couper du monde, c'est ça, exactement. Ces expéditions permettent d'étudier les humains plongés dans des conditions difficiles, explique l'explorateur et chercheur Christian Clos. Nous observons comment ils s'adaptent individuellement et socialement. Nicolas Ngo est l'un des équipiers en Guyane durant 5 semaines sur la rivière Mataroni. Il a vécu des moments très difficiles. Piqué, handicapé par des mycoses liées à l'humidité, plein de choses assez désagréables, mais aussi des moments de grâce. Monté sur un rocher, il a vu la canopée à 360 degrés, le soleil qui se lève sur l'immensité de verdure et les rivières de brume, décrit-il. C'est si beau que le silence s'impose.
Faut souffrir pour voir du beau.
Exactement. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, tirant à ski son traîneau en Finlande, où la température a chuté jusqu'à moins 35 degrés, il ne sentait plus ses mains. Mais il a admiré des aurores boréales féeriques, des arbres couverts de givre, d'une beauté à pleurer.
Aïe, aïe, c'est beau, aïe.
Sélectionné parmi des milliers de candidatures, les explorateurs âgés de 26 à 52 ans ont des profils très différents. Certains travaillent en entreprise, une infirmière, un agent de sécurité. Ils n'avaient en tout cas tous jamais affronté de telles températures. Ils sont suivis par des scientifiques, beaucoup de scientifiques, une quarantaine, des neurologues, des médecins, des sociologues aussi. Les aventuriers volontaires marchent pour la science. Avant et pendant chaque mission, ils subissent des tests et suivent des protocoles précis. Leur activité cérébrale est mesurée pour savoir comment le cerveau réagit dans des climats proches de ceux du futur, plus chauds ou avec des périodes de froid intenses. Le but est de préparer demain. L'esprit d'équipe est étudié également. Un humain seul est démuni car nous avons tous nos fragilités, mais à plusieurs, il y a toujours une solution. Diane Durand a notamment vécu cette solidarité. La très forte cohésion m'a permis de tenir en Laponie où j'ai beaucoup souffert. En Amazonie, c'est pourtant elle qui soutenait le moral des autres en portant plus de charges que ses camarades et en organisant les radeaux gonflables. Le rôle de chacun évolue selon les milieux, conclut-elle. La bienveillance et le soutien du groupe étaient exceptionnels. Ces recherches révéleront notamment comment s'organise un groupe coupé du monde. Aucune communication vers les proches n'est possible, ils sont en complète autonomie. Cette expérience d'isolement intéresse notamment le Centre National d'Études Spatiales, partenaire de cette mission Deep Climate, pour préparer les prochaines explorations spatiales, peut-être sur Mars un jour. Chaque explorateur est équipé d'un sociomètre, un objet qui mesure la distance entre les personnes et analyse si des personnes se parlent. Les données sont anonymisées, étudiées par un éthologue et utilisées pour la première fois dans une grande expédition. Ce sociomètre, cet outil, complète les entretiens qualitatifs et les questionnaires auxquels ils doivent répondre. Cela donne une vraie cartographie des relations sociales au cœur de cette expérience. Pour l'explorateur Christian Clos, chacun peut s'adapter à des conditions extrêmes, mais l'un des piliers de l'adaptation est la coopération, ce que les données des sociomètres peuvent mesurer. Une autre clé pour s'adapter, eh bien, c'est l'émerveillement. Ce déclic, à un moment donné, évoqué par les explorateurs, c'est le plaisir de vivre dans de nouvelles conditions, certes très difficiles, mais où l'on veut construire un futur possible ensemble et on veut survivre, tout simplement. Les équipiers de Deep Climate s'adaptent à des aléas climatiques accélérés. On peut peut-être trouver un remède à la solastalgie, la détresse psychologique liée à la perte de leur environnement naturel habituel. Voilà pour le nouveau mot du jour. Et pour ces explorateurs qui ne sont pas au bout de leur peine, mais semble-t-il sont émerveillés par ce qui leur arrive.
Et je ne sais pas si vous connaissez le groupe Solastalgie. On va entendre une pièce de ce groupe tantôt, Montmorency.
Très bien.
Le miracle de la radio. Il y a des coïncidences comme ça dans la vie. Autre sujet, un trou qui est le plus profond du monde. Il se trouve où?
Oui, une histoire qui est sortie un peu de nulle part, mais elle est tombée sous mes yeux. Oui, un trou très très profond et qui se trouve en Russie. Et je vous raconte un peu cette histoire. Il descend à plus de 12 km sous la surface terrestre. 12 262 mètres pour être très précis. C'est le puits de référence super profond expérimental de Kola, appelé aussi SG3, dans la région de Mourmansk en Russie. À titre de comparaison, cela équivaut à près de 38 tours Eiffel, ou 132 statues de la Liberté, ou 122 terrains de football, ou 3 millions de balles de ping-pong, ou encore 1,3 mont Everest sous la surface terrestre. Vous comprenez, c'est profond.
C'est creux.
La profondeur de ce trou, dont le forage a été arrêté en 1995, n'a jamais été égalée depuis. Mais revenons un peu à l'origine du projet. Tout a commencé en 1970. À l'époque, ça part d'une idée quand même un peu amusante. L'Union soviétique vient de perdre la bataille de l'espace, puisque l'Américain Neil Armstrong a marché sur la Lune le 21 juillet 1969. Eh bien, tant pis, les Soviétiques gagneront une autre bataille, celle du trou le plus profond jamais creusé. C'était l'époque de la guerre froide et les challenges, les compétitions de ce type-là.
Mon père est plus fort que le tien.
Exactement. Les Américains avaient également fait une tentative avant ça. C'était le projet Mohol dans les années 60, entre 1961 et 66. Un trou près de l'île de Guadalupe au Mexique qui avait atteint les 3653 mètres de profondeur. Mais les Soviétiques sont plus ambitieux. Ils se fixent pour objectif d'atteindre les 15 km de profondeur. On parle d'un petit trou, 23 cm de diamètre, un peu moins d'un pied de diamètre. Donc c'est vraiment un forage en fait. Faut pas imaginer une énorme mine à ciel ouvert.
On peut imaginer une énorme carotte.
Exactement, une immense carotte. Le tout commence le 24 mai 1970. Il commence à forer. Les 22 années qui ont suivi le début de ce projet, les scientifiques ont creusé sans relâche. Le record mondial de profondeur, qui détenu à l'époque par le trou Bertha Rogers, creusé pour chercher du pétrole aux États-Unis, il était alors de 9583 mètres, très profond déjà. Eh bien, ils l'ont battu le 6 juin 1979. Les scientifiques étaient aux aguets, selon Petr Skufin, scientifique à l'Institut géologique du Centre à l'époque. Il souhaitait étudier la structure terrestre, la composition des sols et améliorer aussi les techniques et les technologies de forage ultra profond. Et ils ont fait, forcément, pas mal de découvertes le long de ce forage. D'abord, un ensemble de fossiles microscopiques de 24 espèces de plancton unicellulaires, morts depuis longtemps, trouvés tout le long du forage. Jusqu'à environ 6,7 km. Ensuite, ils trouvent également de l'eau provenant de minéraux de la croûte profonde qui n'ont jamais réussi à atteindre la surface à cause d'une couche de roche imperméable. Il y avait donc aussi de l'eau sous nos pieds. En 1983, la foreuse a dépassé les 12 000 mètres, mais les problèmes commencent à s'accumuler. 1984, après avoir creusé jusqu'à 12 000 mètres, une section un train de tige s'est tordu et est resté bloqué dans le trou. assemblé à partir de tiges de forage en alliage d'aluminium spécial ultra résistant et placé dans une boue de forage lestée. Le train de tige finit cependant par ne pas résister à ces charges énormes parce que ça pèse énormément et il commence donc à se tordre comme du caoutchouc. Dernière découverte, eh ben ils sont surpris par la température, les scientifiques. Ils pensaient qu'elle tournerait autour de 100 degrés Celsius à 12 km. Eh bien, elle était de 180 degrés Celsius. On commence à s'approcher des profondeurs et donc la température augmente. Voilà, le projet finit par prendre fin comme on s'en doute avec la chute de l'URSS. En 1991, le projet reçoit le coup de grâce. Aujourd'hui, le centre est complètement à l'abandon. Il y a des photos qui, sur Internet, sont des ruines. En fait, le trou a été scellé.
Ah ouais.
Il y a des bâtiments en ruine, mais c'est amusant de se dire que dans cet espace au milieu de nulle part, c'est là que se trouve le trou le plus profond du monde.
Alors, est-ce que ça va attirer les touristes?
C'est une région très reculée de la Russie, quand même. Bon courage si vous voulez aller prendre des photos.
Alors, on a eu chaud, on a eu froid et on a eu le vertige. Merci beaucoup, Louis de Bernis. Bonne semaine, plaisir. À très bientôt.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis. Thank you.
Chose promise, chose entendue, c'était Solastalgie, la pièce Montmorency.
Oui, très, très beau. J'espère que vous avez apprécié, chers auditeurs, mais je pense pas que ça soit la première fois parce qu'on en a parlé à quelques occasions de cette formation Solastalgie qui compte quelques membres du groupe Cowboy, les Cowboys Fringants, et c'est un album qui nous fait réfléchir sur l'environnement. Et justement, dans la presse aujourd'hui, à la une, des eaux toxiques dans une zone de non-droit. C'est très inquiétant de lire ce texte de Tristan Péloquin, qui fait partie de l'équipe d'enquête à la presse. « En marchant dans la forêt, écrit-il, l'odeur nous saisit subitement et fait immédiatement oublier la beauté du paysage laurentien. La gorge se serre, l'envie de vomir est forte. Nous sommes à environ 250 mètres à l'ouest du terrain de G et R recyclage, à l'extrémité nord du territoire Mohawk de Kané-Sataké. L'eau qui coule en cascade brunâtre et mousseuse arrive d'un ruisseau qui traverse une section du centre de tri aménagé sauvagement et illégalement par ses propriétaires Robert et Gary Gabriel au cours de l'année 2017. Le site, une véritable bombe environnementale et politique, ne dispose d'aucun système de récupération et de traitement des eaux conformes aux normes environnementales. Des images que nous avons captées avec un drone le 4 mai dernier montrent clairement une brèche dans une tranchée qui permet à des milliers de litres d'eau contaminée de s'échapper vers la forêt. L'eau s'écoule ensuite dans le ruisseau Graton, puis dans le ruisseau Girard et finalement dans le lac des Deux-Montagnes. Nous avons détecté une brèche similaire à un autre endroit dans la tranchée sur nos images aériennes prises lors d'un premier survol du site le 20 avril. Et on voit la photo, là, l'eau semble gluante et elle est verte, de couleur verte olive. Le ministère fédéral et le ministère provincial de l'Environnement ont tous deux refusé de nous accorder une entrevue au sujet du centre de tri. Dans une déclaration écrite, le ministère provincial, qui a mis les propriétaires du site à l'amende une première fois en 2019, affirme qu'une deuxième enquête est terminée. Le tout est actuellement entre les mains du directeur des poursuites criminelles et pénales et il revient à ce dernier de déposer des constats d'infraction s'il le juge opportun, précise le porte-parole Frédéric Fournier. Le ministère fédéral affirme pour sa part faire un suivi serré des actions prises par les propriétaires pour se conformer aux exigences en matière de gestion des eaux de surface et dit s'être rendu sur le site le 8 mai pour vérifier la situation. Un groupe de citoyens membres de la communauté Mohawk de Kané-Sataké a transmis à la presse plus de 2000 pages de documents obtenus à la suite de demandes d'accès à l'information qui permettent de remonter le fil des événements et de comprendre l'ampleur du problème lié au site. On y apprend entre autres qu'un projet d'installation sur place d'un système de traitement des eaux a été évoqué en présence d'inspecteurs du ministère fédéral de l'Environnement, mais n'a pas été réalisé. La firme d'ingénierie Englobe a eu le mandat de fournir les plans de construction de bassins de rétention et de fossés permettant de recueillir les eaux du site et les acheminer vers les bassins désignés, mais n'était aucunement mandaté pour assurer le suivi ni la surveillance du chantier, a indiqué la porte-parole de l'entreprise Annie Garneau. Des centaines de pages de rapports d'inspection que des enquêteurs du gouvernement fédéral ont rédigés depuis 2016 ainsi qu'une schématisation 3D du site faite par le provincial, montre que deux cours d'eau naturelle qui le traversaient ont été canalisés dans cette tranchée faite de terre afin de les isoler du lixivia, l'eau qui percole à travers les déchets, verdâtre, qui émane d'une immense pile de détritus de construction fin. Il n'y a pas grand-chose qui a l'air conforme sur ce site, affirme le professeur de chimie environnementale Sébastien Sauvé à l'Université de Montréal, à qui nous avons montré nos images ainsi qu'un rapport de caractérisation de 90 pages produit par la firme Golder. Il faut rendre ce genre de site étanche avec des membranes et pomper les liquides à traiter dans des réservoirs, dit-il. Ça n'a pas de sens, je n'ai jamais vu ça. Les eaux de lixiviation qui sont captées doivent être envoyées vers des bassins de traitement, estime le professeur de génie civil Hubert Cabana, spécialiste du traitement des eaux usées à l'Université de Sherbrooke. La tranchée qui a été aménagée n'a à première vue rien de conforme. C'est risqué de faire ça. Tu risques de contaminer tes eaux naturelles, dit-il. Si ce genre d'installation se trouvait n'importe où ailleurs, il y aurait des mesures beaucoup plus contraignantes et une exigence de conformité appliquée de façon beaucoup plus sévère. Là, on est sur un territoire autochtone qui a un historique compliqué et tout le monde marche sur des œufs, dit Sébastien Sauvé, professeur de chimie environnementale à l'Université de Montréal. Les ministères de l'Environnement du Québec et du Canada ont tous deux prélevé à maintes reprises des échantillons qui démontrent des taux pour certains hydrocarbures aromatiques polycycliques, qu'on appelle aussi HAP, et pour le cuivre supérieur aux recommandations du Conseil canadien des ministres de l'Environnement pour la protection de la vie aquatique, indique une directive du gouvernement fédéral envoyée aux propriétaires du site en 2020 pour exiger des améliorations au système de captation des eaux toxiques. Le gouvernement provincial a pour sa part noté des rejets bien au-delà de la concentration naturelle des contaminants associés, entre autres au sulfure, à l'azote ammoniacal et à la bactériologie, ce qui peut nuire à l'être humain, lit-on dans une directive remise aux propriétaires du site en octobre 2020. Ces fossés de rétention sont à risque de débordement en cas de forte pluie et ou lors de la fonte des neiges. Le débordement des dix fossés pourrait entraîner le rejet de substances nocives dans le ruisseau Graton, a averti l'enquêteur Mathieu Vaillancourt qui a inspecté le site plusieurs fois depuis 2016. Le ministère québécois de l'Environnement avait lui-même produit une ordonnance en 2019 exigeant des frères Gabriel qu'ils cessent le rejet d'eau de lixiviation dans l'environnement et aménage un ouvrage de captage étanche pour les récupérer. C'est une catastrophe environnementale et personne n'agit, dénonce la personne membre de la communauté Mohawk qui nous a fourni la documentation. Nulle part ailleurs au Canada, on ne pourrait imaginer une situation semblable. Mais parce que c'est à caner s'attaquer, les lois environnementales ne s'appliquent tout simplement pas, ajoute cette personne qui demande de garder l'anonymat par peur de représailles violentes des propriétaires du site. Robert et Gary Gabriel ont tous deux de lourds antécédents criminels. En 2004, lors d'une rencontre avec le consulat des États-Unis, l'ancien grand chef du conseil de bande James Gabriel avait décrit les deux hommes comme les leaders du trafic de narcotiques sur le territoire de Canet-Sataké et avait affirmé qu'ils étaient affiliés aux Hells Angels ainsi qu'aux mafias russes et chinoises, peut-on lire dans un câble diplomatique rendu public par WikiLeaks. Les deux hommes, contactés à un de leurs commerces à Canet-Sataké, n'ont pas répondu à notre demande d'entrevue. Le reste de l'histoire est connu. En 2004, quand le grand chef James Gabriel a dénoncé publiquement l'influence grandissante du crime organisé sur le territoire, sa maison a été incendiée. Le poste de police des Peacekeepers, a été pillé et James Gabriel a dû s'exiler en Ontario pour sa sécurité. Depuis, le territoire Mohawk n'a plus de force policière. Robert et Gary Gabriel ont été condamnés respectivement à 1 an et à 15 mois de prison en 2005 pour leur participation à cette émeute et à la séquestration de 67 agents des Peacekeepers. Mais leur passé criminel bien garni ne les a pas empêchés d'obtenir, 10 ans plus tard, un certificat d'autorisation du ministère québécois de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, leur permettant d'exploiter un centre de tri de matériaux de construction sur le site situé à l'extrémité nord du territoire Mohawk, enclavé entre des terres agricoles d'Oka, de Mirabel et de Saint-Placide. Les exploitants n'ont jamais respecté leur obligation d'installer un système de traitement des eaux. Entre 2017 et 2018, ils ont élargi illégalement le site, permettant le déversement de milliers de tonnes de détritus à un endroit inadapté, traversé par des cours d'eau naturels. Plusieurs intervenants politiques interrogés dans le cadre de cette enquête ont indiqué, sous le couvert de l'anonymat, que l'enjeu du dépotoir est devenu une source de tension gigantesque dans la région. Un élu qui a photographié sa devanture a été suivi par une camionnette noire sur plusieurs kilomètres. Un inspecteur en environnement s'est fait dire par Robert Gabriel en avril 2020 que les représentants du gouvernement provincial ne sont plus les bienvenus sur le site. Il nous déconseille d'utiliser le drone pour prendre des photos du centre de tri à partir du terrain voisin, lit-on dans un courriel interne que nous avons consulté. Des coups de feu sont aussi entendus sur une base régulière. Dans une des zones les plus polluées du site que nous avons visitée en avril dernier, une camionnette blanche dont le pare-brise est criblé de trous de balles semble avoir été placée en guise d'avertissement. Le gouvernement fédéral, de qui relève le territoire Mohawk, a transmis le dossier au ministère des Affaires autochtones ces derniers mois. Depuis, plus aucune information ne parvient aux élus locaux, déplore le député fédéral Jean-Denis Garon du Bloc québécois, qui tente depuis des mois d'obtenir des informations au sujet de la contamination du site et des cours d'eau avoisinants. En désespoir de cause, il envisage de financer ses propres analyses toxicologiques avec l'aide des municipalités voisines d'Oka, de Mirabel et de Saint-Placide. C'est la chose à la fois la plus ridicule et la plus nécessaire que j'ai eu à faire depuis que je suis en politique, déplore le député Jean-Denis Garon. C'est la santé de la communauté qui est en jeu.
Sauras-tu te voir au-delà des idéaux? Sauras-tu t'émouvoir quand le temps passera sur ta peau? Sauras-tu ne plus voir la laideur et les défauts? Poseras-tu sur toi ce regard que tu gardes pour les autres? Se mettre dans l'art des paroles assassines. Quand tu t'abîmes, c'est pire que le parabellum. Et même si tu t'affames et si tu piques ta peau, atteindras-tu vraiment la cime où tu te décimes de haut?
La chanson Parabellum de Ingrid Saint-Pierre.
Jeudi dernier, j'ai assisté à un moment de théâtre puissant, trépidant, bouleversant. Pour vrai, cher Mathieu. Je suis sortie du théâtre et j'avais que des sanglots dans mon cœur. Et je n'étais pas la seule. Il y avait plusieurs yeux mouillés. Le Théâtre du Rideau Vert a eu l'excellente idée de mettre à son affiche la pièce Traces d'étoiles de Cindy Lou Johnson, qui était dans la salle. Les acteurs ne le savaient pas et à la toute fin, le metteur en scène Pierre Bernard l'a présentée. Elle était venue, selon lui, de la Californie et j'ai entendu qu'elle venait peut-être de New York. En tout cas, elle arrivait des États-Unis pour assister à la première de cette pièce « Traces d'étoiles », une pièce qui avait été montée en 1992 au 4 sous et qui mettait en vedette deux grandes pointures des acteurs de course, Sylvie Drapeau et Luc Picard, dans une mise en scène de Pierre Bernard. Il signe donc 30 ans plus tard la mise en scène de « Traces d'étoiles », cette fois avec deux autres comédiens chevronnés, Maxime Godette et Mylène Mackay, que je n'avais jamais vus au théâtre et j'étais très, très excitée de les voir parce qu'ils font partie des acteurs les plus talentueux de leur génération, là, les mi-trentaine, début quarantaine. Ils sont tout simplement prodigieux. Alors, l'histoire se déroule en Alaska, en pleine tempête. On voit ni ciel ni terre et Rosanna débarque en coup de vent, c'est le cas de le dire, sans crier gare. Elle est vêtue d'une robe de mariée. Et elle arrive donc dans la maison de Henry Harry, qui vit, lui, retiré du monde, comme un ermite. Il vit en Alaska, il travaille sur les puits de pétrole, et la pièce est un huis clos. Deux âmes en peine, donc, qui se rencontrent. On se demande bien d'où elle vient avec sa robe de mariée. On se dit, bon, bien, elle a échappé au mariage, mais à un moment donné, on se rend compte qu'elle est partie de très, 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 très loin en voiture. Et que lui aussi est parti de très loin parce qu'il vit quelque chose de difficile. Alors, les dialogues sont riches. On est captivé du début à la fin. Et les personnages sont passionnants. Ils sont multicouches. Et le propos est dramatique, tragique par moments. Mais le texte respire. Et on respire aussi avec lui. Heureusement, il y a des petites bouffées d'humour. Parce que c'est vrai que dans le drame ou la tragédie, il y a toujours de l'humour de toute façon. Il y a beaucoup d'esprit. Et la pièce est très bien traduite par Maryse Varda, qui avait d'ailleurs traduit la pièce il y a 30 ans. Et si vous voulez voir des acteurs au sommet de leur art, là, j'ai l'impression de parler comme on peut en entendre souvent, là, des critiques où on parle d'acteurs au sommet de leur art, mais ici, c'est vrai, vrai, vrai. Alors, c'est au Rideau Vert qu'il faut aller. Et la pièce « Traces d'étoiles » est présentée jusqu'au 10 juin. J'ai l'impression qu'ils vont avoir des supplémentaires. En tout cas, moi, ça m'a complètement plu. Et il y a eu une ovation, là, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une. Les acteurs sont revenus sur la scène 4 ou 5 fois. Alors, c'est rare, ça. Puis, je voyais que Maxime Godette était très ému. Ben, Mylène Mackay aussi, mais il faut dire que l'acteur principal, Maxime Godette, a pris la relève 3 semaines. Il a remplacé au pied levé, c'est le cas de le dire, 3 semaines avant la première, Emile Schneider, qui devait jouer le rôle dans « Traces d'étoiles », mais pour des raisons de santé, il s'est retiré. Maxime Godette a appris un texte extrêmement difficile, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots, beaucoup, beaucoup d'émotions également, et on a l'impression qu'il le travaille là-dessus depuis 3 ou 6 mois. Alors, bravo, bravo. C'est à voir, donc, Traces d'étoiles. Je donne 5 étoiles sur 5 à cette pièce, hein? Je suis emballée. Ça paraît-tu? Alors, voilà pour Traces d'étoiles.
Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirais que tu m'aimes pas et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aime être contre toi? Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras. Tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Je me sens brimée, du mal à m'exprimer. Je trouve pas les mots, des fois que j'en dis trop. Autant te dire que je m'attends au pire. Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté.
fois. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois. Mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. J'ai plus la force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pour quoi? Pour me mettre dans tous mes états, n'en fallait pas venir me voir. Tu t'en iras.
Tu t'en iras de la Zara.
La Québécoise Lazara, qui a représenté la France au concours de l'Eurovision, a expliqué que le doigt d'honneur qu'elle a fait après l'annonce des résultats n'était en rien un geste de mépris. Au contraire, le geste que j'ai fait dans la Green Room, dit-elle, le salon des artistes en français, et que tout le monde reprend sur les réseaux sociaux n'est absolument pas du mépris ou une insulte, et en aucun cas un doigt d'honneur. C'est un geste chez moi de déception qui veut dire « whatever », qu'on pourrait traduire par « ainsi soit-il ». Ni plus ni moins, aucune volonté de choquer ou de provoquer, a expliqué Lazara dans une story sur Instagram après son passage à l'Eurovision. La chanteuse a aussi fait amende honorable. Je m'excuse si cela a été mal interprété. Rappelons qu'après l'annonce des résultats samedi, Lazara a réagi levant la main et montrant son majeur face à la caméra et aux millions de spectateurs. Ce geste a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes estimant que ce geste est limite. D'autres accusant la chanteuse de ne pas être très joueuse. La Suède, représentée par la chanteuse Loreen avec son titre « Tattoo », a remporté samedi le concours de l'Eurovision pour la 7e fois, un record lors de la finale organisée par le Royaume-Uni à Liverpool au nom de l'Ukraine. La France, représentée par la Québécoise Lazara, est arrivée en 16e place. L'Hexagone n'a plus gagné depuis 1977 avec Marie Myriam. À venir à l'émission, Noémie Kayser dans la chanson « C'était pour de faux ». Alors, on aurait pu attribuer cette réplique à Lazara. On aura les par actualités et une entrevue avec Jacques Lacombe, dis-je bien, qui est le nouveau directeur artistique de l'Orchestre classique de Montréal.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
S'envole une pensée. Parallèle où ton rire résonne toujours dans mes oreilles. Qui veut m'habiter? Toutes tes plus grandes peurs, elles ont quitté mon corps, devenu planète abandonnée, perdue dans l'air du temps. Thank you.
Noémie Kaiser, c'était pour de faux.
Dans la presse d'hier, un beau texte a été publié à l'occasion de la fête des mères. Je suis les mains de Loïc. Une mère et son fils font équipe au cégep. C'est un texte signé Marie-Ève Maurras. En 2021, la presse a relaté le parcours de Loïc Bidal, qui, atteint d'une maladie dégénérative rare, avait fait tout son secondaire à l'hôpital de Montréal pour enfants. Il s'agissait d'une première. Un jeune homme formidable. Une leçon exceptionnelle de courage, source d'inspiration, de détermination et de résilience. Loïc n'avait pas laissé les lecteurs indifférents. Il poursuit sa route au cégep avec toujours à ses côtés sa mère. Un pronom indéfini peut-il contenir tout l'amour d'une mère, à la manière dont Annick Pilon emploie le « on » pour parler de ce que son fils et elle font au quotidien, force est d'admettre que oui. L'automne dernier, on avait un cours à 8h le matin. Je me levais à 5 heures, j'arrivais ici à 6 heures parce que ça me prend une heure pour préparer Loïc. Je partais à 7 heures pour qu'on ait le temps de se rendre, mais là, on a un super bel horaire. Atteint du syndrome de Morquio, Loïc a besoin de soins constants. À sa majorité, il a déménagé de l'hôpital de Montréal pour enfants, où on lui faisait l'école dans sa chambre, à un CHSLD de la Chine. Il étudie maintenant en technique de l'informatique à raison de 2 cours par session. S'il a dû s'habituer à vivre en CHSLD, il a aussi dû apprendre à retourner à l'école. Il a fallu que je m'habitue au rythme, à me déplacer et à attendre d'être de retour à la maison si je veux me reposer. Ce sont des choses que je n'avais pas vécues depuis le primaire, dit Loïc. Le primaire, là où tout a basculé pour la famille. Loïc a dû subir une trachéotomie et est devenu paraplégique, n'est plus jamais rentré à la maison. Mais voilà que Loïc approche de la vingtaine et va maintenant au cégep, comme bien d'autres. Annick Pilon est-elle là chaque fois qu'il a un cours? Elle rit de bon cœur, ne répond pas. « Oui, » dit Loïc. « Je suis les mains de Loïc, » explique Annick. Dans un récent cours, c'est elle qui a tenu le tournevis pour monter et démonter un ordinateur. Son fils lui donnait les instructions. S'il devait y avoir une urgence médicale, que dans le pire des cas, la trachéotomie de Loïc s'obstruait, elle saurait quoi faire. Ainsi, tous les cours ont fait à deux. Tous les cours sont faits à deux. Ils ont aimé leur prof de philosophie l'an dernier. Annick Pilon est aussi conductrice. La première année, c'est en transport adapté qu'ils allaient au cégep. Or, il y avait souvent des retards, si bien que mère et fils ont parfois dû attendre de longues heures pour faire le court trajet entre le cégep et le CHSLD. Des heures à tuer pour à peine une vingtaine de minutes de route. « Combien de fois j'ai pleuré ?» demande Annick à Loïc. « Pas beaucoup, » répond son fils. Plus tard, elle relatera cette fois où, face à un transport adapté qui n'arrivait pas, Loïc et elle se sont retournés au café du cégep pour attendre. « Je suis allée au comptoir et j'ai dit, « Je vais prendre une bière, » dit-elle en riant. L'attente est chose du passé. Loïc a maintenant son propre véhicule adapté, payé avec l'argent récolté grâce à une collecte de fonds organisée pour venir en aide à la famille quand il a déménagé à Montréal, il y a plus de 10 ans. « Pouvez-vous l'écrire que c'est l'Uniprix de Buckingham qui l'avait organisé ?» demande Annick Pilon. « Aujourd'hui, dit-elle, l'élan de générosité de la communauté fait partie intégrante du cheminement scolaire de son fils. » Jusqu'à tout récemment, Annick Pilon était enseignante, suppléante en Outaouais, d'où la famille est originaire. Depuis que Loïc est au CHSLD, elle vit à Montréal et travaille dans une SAQ. En plus de son travail, elle accompagne son fils au cégep 4 jours par semaine. « Si ma mère est malade, je n'ai pas de backup », dit Loïc, non sans emprunter au langage de son domaine d'études. Quand son fils va quelque part, Annick Pilon doit être présente, mais assure qu'elle n'est pas une mère castrante. « Il a 19 ans. Je ne gère rien. C'est lui qui choisit ses affaires », dit-elle. Loïc gère ses affaires, mais aussi celles des autres. Il est trésorier de l'association étudiante du Cégep André-Laurendeau. Son président, Charles Clavert, passe justement par hasard dans le stationnement de l'établissement. Loïc s'est présenté aux élections et on s'est rencontrés quand il a été élu, raconte Charles. Quand on parle d'argent, Loïc est carré dessus, rigole-t-il. L'association étudiante, dit Loïc, l'a aidé à se faire des amis. Et oui, sa mère doit l'accompagner au party. Le Cégepien est aussi membre de Polyorbit, une société technique de Polytechnique Montréal. On participe à des compétitions nationales sur des technologies spatiales, explique Loïc. L'école de génie est dans sa ligne de mire. Sa mère dit qu'elle chérit les moments passés avec lui. « Je n'aurais pas voulu que ma mère m'abandonne, dit-elle, pour expliquer son dévouement. » Par un bel après-midi de mai, Annick Pilon est assise dans une classe sans fenêtre. À son côté, Loïc effectue un exercice de programmation. Leur session de cégep est presque terminée. Alors voilà pour le texte écrit par Marie-Ève Moras sur Loïc et sa mère Annick. Je suis les mains de Loïc. On va écouter un peu de musique dirigée par Jacques Lacombe et on lui parle tout de suite après. Extrait de Carte blanche à Jacques Lacombe, c'est un concert des élèves du Conservatoire de musique de Trois-Rivières. On entendait l'environnement un petit peu bruyant, mais au moins il n'y avait pas de sonnerie de téléphone cellulaire. Bonjour Jacques Lacombe.
Bonjour Hélène.
Ça me fait plaisir de vous parler. Jacques Lacombe, ben, félicitations pour cette nomination. Vous êtes maintenant le directeur artistique et chef de l'orchestre, chef principal de l'Orchestre classique de Montréal, qu'on appelle aussi l'OCM. Vous succédez donc à Boris Brott comme chef d'orchestre de l'OSM, l'OCM, dis-je bien, après son accident d'avril 2022. Quel était votre lien avec Boris Brott, Jacques Lacombe?
Oh mon Dieu, je connais Boris depuis longtemps. Il a même joué un rôle assez important dans mon développement, comme beaucoup de jeunes musiciens, parce que je pense qu'il y avait une de ses passions aussi, c'était d'aider les jeunes talents à éclore. Et donc, dans mes années d'études au conservatoire, il est venu, quand j'étais étudiant donc à la classe de direction d'orchestre au Conservatoire de musique de Montréal, il est venu juger mes examens.
Ah oui.
Et après ça, j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse d'études de longue durée en direction d'orchestre du Conseil des arts du Canada. Et Boris était sur le jury, même la deuxième année où j'ai fait demande de bourse, c'était avec l'orchestre de philharmonique de Hamilton, dont il était le directeur artistique et directeur fondateur. Donc, il m'a beaucoup soutenu au début de ma carrière. Après, on s'est côtoyé à l'occasion. Des années plus tard, j'étais pendant quelques années professeur de direction d'orchestre au conservatoire. Donc, il est venu juger aussi les élèves de la classe. Et puis, c'était toujours très agréable comme contact. C'est quelqu'un de très positif. Et puis voilà, donc ça a rendu sa fin de tragique encore plus difficile à accepter, parce que c'est vraiment... il était en pleine forme, et puis voilà, il a été victime d'un accident, se faire frapper comme ça par une voiture en prenant une marche le matin.
C'est tellement bête.
Une fin vraiment absurde. Ouais.
Et quand on vous a approché pour vous proposer là, de prendre sa succession, en quelque sorte, est-ce que vous avez dit oui immédiatement? Est-ce que vous ressentiez une certaine pression?
C'est un mandat un peu particulier. J'ai occupé pas mal de postes de direction artistique dans ma carrière, mais c'est la première fois, effectivement, que c'est un héritage très spécial, parce que l'orchestre qui est un des plus vieux orchestres au Québec, voire au Canada, on va amorcer là, notre 84e saison dans quelques mois. Cet orchestre-là a été dirigé par deux hommes, par une famille, en fait. Donc, le fondateur, Alexander Brock, le père de Boris. Et lorsqu'Alexander s'est retiré, donc Boris a pris le relais. Fait que c'est vrai que c'est... Il y a toute une tradition et toute une histoire qui vient avec ce poste-là. Et au départ, j'avais jamais travaillé avec l'orchestre avant le décès de Boris, et le hasard des calendriers a voulu que je sois disponible la saison dernière pour faire le dernier concert de la saison qu'il aurait dû diriger à la Maison Symphonique.
Ah, ouais.
Et puis c'était assez un contact assez chouette avec l'orchestre. Et après, dans la foulée, on m'a demandé de faire un disque, donc j'ai fait un disque avec eux cet été, l'été dernier en fait, d'œuvres d'un jeune compositeur québécois, Maxime Goulet. Et donc, ça m'a permis de voir comment la chimie se passe, parce que la relation entre un directeur musical et son orchestre, c'est un peu comme un mariage. Hein. Je te dis, il faut...
faut que ça clique.
Oui, il faut que ça clique, exactement. Et puis, je trouvais que la dynamique était intéressante. Puis donc, au fil des discussions, on m'a demandé si je serais intéressé à considérer le poste. J'ai rencontré le comité de sélection. On a échangé. Puis finalement, je me suis dit que l'aventure me tentait. Et puis, pour moi, c'est un peu un retour aux sources, parce qu'au début, donc l'orchestre est un orchestre à base, un orchestre de chambre. Ils arrivent de faire des programmes à grand effectif, mais à la base, c'est un orchestre à cordes, un orchestre donc de chambre. Et au tout début de ma carrière, j'ai été chef associé d'un orchestre de chambre, d'un orchestre à cordes à Montréal, l'Ensemble Mathy. Fait que c'est un peu un retour aux sources d'un répertoire que j'ai beaucoup côtoyé au début de ma carrière, puis que j'ai un peu moins fait au cours des dernières années. Fait que ça me plaît énormément aussi.
Et Jacques Lacombe, qu'est-ce que vous comptez apporter à cet orchestre?
Ben, j'ai établi que l'orchestre a été construit sur trois piliers. Il y a l'excellence artistique qui me semble avoir toujours été une priorité, l'originalité puis l'innovation dans la programmation et la pertinence dans la communauté. Donc, j'ai voulu construire une programmation qui soit, comme moi j'aime les faire, c'est-à-dire une programmation qui soit stimulante dans le sens que ça, d'exposer le public et les musiciens aussi à des œuvres du répertoire qui sont moins connues, qui sont moins jouées, des œuvres d'aujourd'hui aussi. De présenter les compositeurs d'aujourd'hui, donc la création va tenir une place importante, et que cette programmation-là tienne également en parallèle, en sorte de dialogue avec les grandes œuvres du répertoire. C'est pour ça qu'on va présenter, par exemple, le Messie d'Handel, le Requiem de Mozart, ou même des œuvres comme La Nuit transfigurée de Schoenberg, qui font partie des œuvres maintenant du répertoire pour orchestre à cordes, et à côté de ça, des choses moins entendues, comme par exemple, il y a un opéra tango de Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires, qu'on va présenter, qui est rarement donnée et qui est une œuvre vraiment très, 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 très forte. Donc, voilà, j'essaie d'équilibrer pour que le public en ait à la fois un peu de réconfort, je dirais, dans des œuvres qu'on connaît et qu'on aimerait entendre, et aussi d'être surpris, stimulé, charmé par des découvertes. Il y a tellement de belles musiques qu'on ignore, malheureusement. Donc, j'essaie un peu de me faire le promoteur de ce type de répertoire aussi.
Et vous avez élaboré cette saison 2023-2024 avec Taras Kulish. Je ne sais pas si je prononce bien son nom.
Kulish, effectivement, oui, Taras Kulish. Oui, c'est un ami de longue date. Taras est le directeur général, en fait, de l'orchestre. Et Taras, je le connais depuis, mon Dieu, peut-être une trentaine d'années.
Ah, ouais.
Taras avait une formation de chanteur. On s'est connus à l'époque. Lui était stagiaire à l'atelier de l'Opéra de Montréal. Et moi, j'étais chef de chœur et chef assistant à l'Opéra de Montréal. Et c'est là qu'on s'est connus. Et après, on a fait des concerts ensemble et tout ça. Puis Taras, progressivement, s'est dirigé vers l'administration. Et donc, c'est vraiment un ami de longue date. Et puis, au départ, avant même d'être nommé, de suite au décès tragique de Boris, j'avais offert, en fait, Taras m'avait demandé dans le printemps, si j'accepterais de l'aider un peu à élaborer la saison prochaine, sans savoir qui serait le prochain directeur musical. Donc, j'avais accepté déjà ce mandat-là. Puis finalement, ben, ça s'est concrétisé dans la durée. Donc, c'est vrai qu'on travaille bien.